Le français va très bien, merci. C'est le nom d'un tract rédigé par le collectif des linguistes atterrés en réaction au rengaine décliniste sur l'état de la langue française. Pour l'évoquer, on a rencontré Florent Moncomble, membre du collectif et maître de conférence en linguistique anglaise à l'université d'Artois. On lui a d'abord demandé de définir ce qu'est la linguistique.
Alors la linguistique, c'est l'étude scientifique du langage, hein, dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Et c'est bien une science, et c'est ça, je pense, dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire une étude rationnelle hein, qui se base sur des observations concrètes de la façon dont les gens, les locuteurs et les locutrices des langues s'expriment à l'écrit comme à l'oral.
Vous l'avez dit, vous faites partie d'un collectif, les linguistes atterrés. Comment est né ce collectif et sur quel constat en fait ?
Alors c'est un collectif qui, dont l'acte de naissance public, je dirais, c'est la publication du tract, hein, Le français va très bien, merci, aux éditions Gallimard. Donc ça, c'était en mai 2023. Et c'est un collectif qui s'est fondé sur le constat que le discours médiatique dominant en France, mais pas seulement en France, en particulier en France, c'est un discours décliniste, catastrophiste, qui nous annonce la fin du français, son remplacement par l'anglais et par la même la fin de notre civilisation. Donc c'est assez curieux d'ailleurs parce que quelqu'un à qui je parlais du collectif il y a quelques temps, il me disait « Ah oui, alors vous êtes atterré par l'état du français, c'est ça ?» Je dis « Non, non, pas du tout, c'est le contraire. On est absolument consterné par ces discours qui, en fait, ne sont fondés sur aucune base rationnelle et scientifique. »
Alors ça fait penser un petit peu aux économistes atterrés, je ne sais pas si ça vient de là, parce qu'il y avait aussi ce collectif de profs et d'universitaires qui aussi s'était monté sur d'autres thématiques sans doute.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, le nom du collectif est tout à fait inspiré par celui des économistes atterrés. Et pour la petite histoire, on leur a demandé s'ils nous autorisaient à leur emprunter leur idée.
Donc vous avez sorti un petit tract, hein, vous l'avez dit, chez Gallimard, qu'on peut retrouver aussi hein, en ligne, avec tout un tas de points, et donc qui revient en fait sur un peu des préjugés. Hein, on va prendre peut-être le premier, c'est l'idée de la langue de Molière. Bon, il y a aussi l'idée que le français serait envahi par l'anglais. Donc tous ces points sont un peu démontés. Et puis il y a aussi des solutions, des préconisations qui sont proposées, c'est ça ?
C'est ça. Donc on a listé, enfin les co-auteurs et co-autrices ont listé 10 points, 10 idées reçues sur l'état du français. Et voilà des choses que l'on retrouve souvent, notamment dans les médias. Et effectivement, le but n'était pas seulement de dénoncer un discours, mais de proposer des alternatives. Donc par exemple sur la langue de Molière, c'est une expression toute faite hein, à laquelle on ne réfléchit plus, mais si on s'arrête deux minutes dessus et qu'on va retrouver Molière non pas dans les éditions modernisées qu'on a dans nos librairies, mais dans les éditions originales, on se rend compte que le français qu'on parle et qu'on écrit maintenant, même très littéraire, ça ne ressemble plus du tout au français de Molière, que nos élèves auraient peut-être du mal à lire Molière dans le texte. Beaucoup de choses ont évolué. L'orthographe de Molière, d'abord, est assez incohérente et puis ne ressemble pas du tout à la norme orthographique de maintenant. Il suffit de regarder la page de garde originale du Misanthrope. Il n'y a pas de H dans Misanthrope, par exemple. Et justement, une idée pour contrer ça, c'est de relire Molière dans le texte pour se rendre compte que eh bien, la langue a beaucoup évolué. Molière, c'était aussi quelqu'un qui mettait à l'honneur les variantes régionales du français et qui ne montrait pas spécialement de dédain pour ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui des patois de façon un petit peu dégradante.
Il y a aussi dans ce tract l'idée que le français n'appartient pas aux français. Le français est pratiqué et parlé, alors, lu dans tout un tas de pays dans le monde.
Bien entendu. Alors, je dirais plutôt le français n'appartient pas à la France en tant que pays. Il appartient aux Français en tant que locuteur, mais aux Français entre autres, bien entendu, puisque la francophonie, dont fait partie la France, c'est plus de 300 millions de locuteurs dans le monde. un membre du collectif qui s'appelle Arnaud Hout et qui est belge. J'aime bien rappeler que le français est installé en Belgique depuis plus longtemps qu'à Marseille, par exemple. Donc il n'y a pas de raison de considérer que le français appartiendrait moins aux Belges qu'aux Français.
Avec aussi cette idée de bah, qui décide finalement de ce qui est français ou pas, de ce qui est correct ou pas dans, dans la langue française. Finalement, il y a cette idée aussi que l'Académie française décide pour ça. Mais en fait, pas du tout.
Et alors,
oui ou non,
l'Académie alors. Française aimerait bien, aimerait bien décider. Bon, le fait est que d'une part, on se rend bien compte... quand on écoute nos contemporains et qu'on on lit ce qu'ils écrivent, que assez peu de personnes prêtent vraiment attention aux recommandations de l'Académie française. Pour juste prendre un exemple relativement récent, l'Académie française avait statué sur le genre du nom Covid en disant non, c'est la Covid qu'il faut dire, alors que tout le monde, la plupart des gens disaient déjà le Covid au masculin, donc ça n'a pas eu d'impact réel sur... sur la façon dont s'expriment les gens. Et puis pour revenir à l'Académie française, c'est une institution qui n'est en réalité pas compétente, qui est une institution de prestige, certes, qui est constituée d'un club de personnalités, de personnalités d'horizons très divers. Hein. Oui, il y a des auteurs, des écrivains, il y a aussi des médecins, il y a eu des militaires, des personnalités politiques. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a aucune linguiste à l'Académie française. Et que pour autant, on leur donne la charge de publier le dictionnaire de référence de la langue française. Donc c'est quand même assez ironique.
Et... oui, alors justement, ce dictionnaire, donc le dernier tome vient de paraître, c'est ça ?
C'est ça, il est paru la semaine dernière.
Et vous, en tant que collectif, donc le collectif des linguistes atterrés, vous avez souhaité réagir, il y a une tribune qui est parue dans Libération, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça, tout à fait. On a fait paraître une tribune dans Libération mercredi dernier, au matin, en fait, le jour même de la cérémonie marquant la publication du quatrième et dernier tome de la neuvième édition du dictionnaire de l'Académie. D'ailleurs, tribune que l'on peut retrouver en accès libre sur le site du collectif, dont j'imagine vous allez mettre le lien sur la page web de PFM. Et tribune dans laquelle on rappelle voilà, le manque de compétences de cette académie, le manque de pertinence de ce dictionnaire dont la rédaction s'est étalée sur plus de 30 ans. Donc on imagine bien que les mots qui sont dans le premier tome, d'abord leur définition ont évolué, qu'il en manque beaucoup. Par exemple, un mot de la vie de tous les jours n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie, c'est le mot bisou. C'est quand même assez énorme, c'est un mot de tous les jours. Certains mots n'ont pas du tout suivi l'air du temps. Si je prends le mot ambassadrice, il est indiqué dans le dictionnaire de l'Académie française que c'est la femme d'un ambassadeur, mais en aucun cas une femme ayant fonction d'ambassade à l'étranger. Donc là aussi, c'est quand même assez curieux. Et pour revenir au quatrième tome donc, qui vient de paraître, on a des lacunes qui sont assez énormes. Alors notamment au niveau des emprunts, par exemple à l'anglais, le verbe spoiler n'y est pas alors qu'on l'utilise tous les jours, ou le mot streaming, le mot web, webmestre, webinaire, tout ça, ça n'y est pas. Par contre, il y a le mot wokisme et wok, ça oui.
Alors justement, peut-être que dans ce que vous dénoncez... Le déclinisme, hein, on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas si c'est...
Oui, ah, tout à fait, déclinisme, ouais, ouais. Catastrophisme.
Est-ce que c'est pas un peu dans l'air ambiante, extrême droitisante, quoi ? Je veux dire, on le voit dans les médias, il y a quand même pas mal de personnes d'extrême droite qui s'emparent de ce thème du supposé déclin du français pour parler du déclin de la civilisation, du déclin du pays. Enfin, est-ce que ce n'est pas un peu en lien, finalement ?
Alors, ce qui est certain, c'est que la langue et l'identité sont des choses qui sont extrêmement liées. dans la conscience collective. Nous sommes des pays, nous sommes des nations qui se sont constituées aussi en grande partie sur des bases linguistiques. Hein, si on pense à la deuxième article de la Constitution française, hein, le français est la langue de la République. Donc ce sont des choses qui sont constitutives de la façon dont nous constituons comme ou dont nous nous définissons comme comme peuple et comme nation. Donc il est assez naturel que des craintes sur la langue se débordent sur des craintes de type identitaire. Et de fait, on trouve ces craintes surtout dans d'un discours situé politiquement à droite, voire à l'extrême droite. C'est vrai que les vecteurs de ce type de discours, ben c'est principalement des publications comme Le Figaro, qui d'ailleurs reprennent sans beaucoup y réfléchir les recommandations parfois fantaisistes de l'Académie française. Mais peut-être curieusement, on trouve aussi ça à gauche, notamment les charges contre les anglicismes. Pour un travail réalisé avec mon collègue Christophe Benzitoun au mois de juin, on est allé retrouver dans la presse française tout ce qui concernait les attaques contre les anglicismes. Et même si les publications de droite sont majoritaires, on trouve aussi ça dans des publications marquées très à gauche, hein, comme l'Humanité. Pourquoi ? Parce qu'on associe l'anglais au capitalisme et au néolibéralisme. Donc là aussi, il y a un lien entre la langue et d'autres choses. Nous, ce que nous souhaitons répondre à ça, c'est ben, finalement un constat qui naît de l'observation que l'on fait du langage et de son usage. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le français a plus de 300 millions de locuteurs dans le monde. Donc, ça n'est pas une langue en voie de disparition. C'est complètement fantaisiste de le dire. Que les emprunts aux langues étrangères ont toujours existé. Que ça fait partie de la vie naturelle d'une langue. Que les changements, les évolutions d'une langue dans le temps, là aussi, ça fait partie de la vie naturelle d'une langue, que les seules langues qui n'évoluent pas ou plus, ce sont les langues mortes comme, ou anciennes, comme le latin ou le grec ancien. Et donc tout ça, c'est tout à fait naturel, et c'est ce qui rend la langue vivante. On a un discours en face, décliniste, catastrophiste, qui voudrait en fait muséifier la langue, qu'elle ne bouge plus, qu'elle reste dans un état fantasmé, prétendument parfait, prétendument pur et originel, alors qu'encore une fois, quand on le compare avec le français d'il y a quelques siècles, ça n'a plus rien à voir.
On est toujours avec Florent Moncomble, maître de conférence en linguistique anglaise à l'Université d'Artois et membre du collectif Les Linguistes Atterrés. Alors, le français ne va pas disparaître, ça c'est sûr, mais quand même, l'orthographe, il y a un déclin, on le voit, même vous en parlez, oui. Aussi. Bon, les jeunes, le niveau des jeunes en orthographe baisse.
Alors, il faut savoir de quoi on parle en réalité. D'une part, l'orthographe, ça n'est pas la langue. L'orthographe, c'est un code graphique dont on se sert pour conserver une trace d'un discours ou d'une communication. Donc c'est un code. C'est un simple code. Ce code, c'est une convention. À peu près la moitié des langues du monde ne sont pas écrites. Et parmi les langues qui sont écrites, il existe une foule de systèmes orthographiques différents. Donc ça, peut-être déjà pour nos auditeurs et auditrices, poser ce genre de base. Hein. Ce qui décline, c'est la maîtrise du code orthographique du français par les jeunes, oui, mais pas que les jeunes, en fait. Alors oui, ça se mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des études qui montrent que si on donne un même texte à écrire à des écoliers d'aujourd'hui, qu'on compare avec le même texte orthographié par des écoliers d'il y a 20, 30, 40 ans, oui, il y a plus d'erreurs. C'est vrai. Ce qui pose question, c'est les conclusions qu'il faut en tirer. Est-ce que pour autant, nos jeunes sont plus idiots qu'avant ? Certainement pas. Il n'y a pas de raison de le penser, en tout cas. Par parenthèse, c'est un discours qui existe depuis au moins 4000 ans, puisqu'on a des traces archéologiques de scribes du Moyen-Orient qui déjà en 2000 avant Jésus-Christ se plaignait que les jeunes ne savaient plus l'écrire. Donc vous voyez qu'on est sur un discours qui est loin d'être original. Donc non, ils sont probablement pas plus idiots qu'avant. Simplement, on a un temps consacré à l'enseignement du français à l'école élémentaire qui a diminué. Et dans l'enseignement secondaire également, donc nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens passent moins de temps à étudier le français qu'avant. Et dans cet enseignement du français, il y a des choix à faire et il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Il y a de la littérature, il y a de la compréhension, il y a de l'expression, etc. Et la place de l'orthographe là-dedans, mécaniquement, diminue. Quelle est la solution ? Est-ce que c'est d'arrêter ou de diminuer la place, par exemple, de l'éveil à la littérature ou à la rédaction, à l'expression écrite, au profit de l'orthographe ? Certainement pas. Déjà, à la fin du 19e et au début du 20e, on avait des ministres de l'instruction publique à l'époque qui déploraient que l'enseignement de l'orthographe prenait trop de place et qu'on produisait des élèves qui maîtrisaient le code orthographique, mais qui étaient incapables d'écrire un texte intelligent. Non, la solution que nous proposons avec les linguistes atterrés, c'est de mettre à plat la norme orthographique du français, les règles de l'orthographe française, et de se dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas rationnelles, beaucoup d'exceptions. Ça peut être des exceptions sur de l'orthographe lexicale. Par exemple, le fait d'écrire nénuphar avec PH n'a aucun sens. Ça n'a même pas de sens étymologique, puisque ce n'est pas du tout un mot qui vient du grec. Il y a énormément de confusion, par exemple, sur les double N. Je ne sais pas si vous avez du mal à orthographier les mots, par exemple, institutionnalisé, personnalisé, etc. Est-ce qu'on met un N ou deux N ? Ben, en fait, ça dépend. Donc c'est très, très difficile à assimiler et donc ça prend beaucoup de temps à assimiler. D'autres pays ont drastiquement rationalisé leur orthographe. Ça peut être l'Espagne pour le castillan, ça peut être le Portugal, ça peut être l'Italie, où ils se sont débarrassés d'à peu près toutes les incohérences et toutes les difficultés et ils ont un code orthographique qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à acquérir. Ce qui leur permet de faire porter l'effort sur d'autres choses beaucoup plus intéressantes que la maîtrise de l'orthographe. Donc c'est ça que nous proposons. Déjà, utiliser, exploiter, enseigner la réforme orthographique de 1990, qui quand même a été validée par l'Académie française à l'époque, c'est pas rien, pour une institution notoirement conservatrice. Donc déjà ça. Et puis même aller plus loin sur de l'orthographe lexicale, donc la question des double N, etc.
Le participe passé.
Le participe passé, ah ouais, mais oui, mais bien entendu. Dépénaliser le non-accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Les pommes que j'ai mangées, le sandwich que j'ai mangé, ça se prononce exactement de la même façon, on comprend quand même pourquoi écrire l'un EES et l'autre simplement E. Bon, on comprend, l'accord ne s'entend à l'oral que sur une toute petite minorité de verbes du troisième groupe. Et d'ailleurs, très très souvent, on entend des gens qui pourtant ont un niveau d'éducation très élevé, donc nos responsables politiques par exemple, des journalistes professionnels par exemple, qui oublient de faire des accords et qui vont dire par exemple... Je ne sais pas, moi, les mesures que nous avons prises et pas les mesures que nous avons prises. Il suffit d'allumer sa télé pour entendre quelqu'un dire ça. Donc, à l'oral, on ne le fait presque plus. Pourquoi est-ce qu'on continue à s'embarrasser avec ça à l'écrit ? Même les académiciens font des erreurs.
Autre sujet brûlant qui concerne le français, c'est sa féminisation.
Oui.
L'écriture inclusive, tout ça. Alors, vous êtes quand même... J'ai trouvé que le discours était assez prudent sur cette question-là. Comment,
tout à fait.
Il n'y a pas de consensus, vraiment,
en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de consensus au sein de l'équipe. Nous sommes tous d'accord pour dire que notre rôle, c'est d'observer. On n'est pas là pour promouvoir. On n'est pas là pour militer. On est là pour... En tant que linguiste, scientifique du langage, on est là pour observer. Alors, il y a deux choses, effectivement. Il y a la féminisation d'un côté, par exemple, la féminisation des noms de métiers. On parlait tout à l'heure d'ambassadrice. C'est quand même assez ahurissant que le mot ambassadrice ne soit pas défini dans le dictionnaire de l'Académie comme renvoyant à une femme ayant la charge d'une ambassade. Donc, la féminisation des noms de métiers, c'est déjà un chantier. Dans la vie de tous les jours, je pense que c'est complètement admis que on va pouvoir parler justement d'une ambassadrice, d'une préfète, d'une ministre. À l'époque où Elisabeth Borne était chef du gouvernement, on l'appelait Madame la Première ministre. Et on trouve ça tout à fait naturel. En tout cas, la majorité des locuteurs trouvent ça naturel. D'ailleurs, il y a vraiment une répartition sociale par rapport à ça, c'est-à-dire que ça pose aucun problème de féminiser caissier ou infirmier. Par contre, féminiser ministre ou sénateur, ça coince un petit peu plus. On voit que la question n'est pas linguistique en réalité. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, effectivement, ce qui cristallise pas mal d'attention et pas mal d'opposition, c'est ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Alors, ce que les linguistes observent, c'est que, contrairement à ce qu'a pu affirmer Emmanuel Macron quand il a inauguré la Cité internationale de la langue française en septembre ou octobre, j'ai plus la date exacte en tête, de l'an dernier, le masculin ne fait pas le neutre. C'est-à-dire que il y a des linguistes qui mesurent ça, qui étudient ça de façon scientifique, avec des protocoles expérimentaux, tout ce qu'il y a de plus sérieux, et qui montrent que quand on dit « les sénateurs ont quitté l'hémicycle », dans la tête des gens qui entendent cette phrase, la représentation qui se fait, c'est une représentation au masculin. C'est-à-dire que les gens se représentent des hommes et pas des femmes, et pas un groupe mixte. Donc ça, c'est une constatation, c'est une observation. Sur l'écriture inclusive, la position d'observateur, c'est de dire, vu que le masculin n'est pas satisfaisant, manifestement, de façon mesurable, pour évoquer des groupes mixtes, nous observons des tentatives de remédier à ce problème. Et elles sont nombreuses. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que l'écriture inclusive, c'est une petite partie de quelque chose de plus large, qui est le langage inclusif. C'est-à-dire que tout ne passe pas non plus par l'écrit. Quand le général de Gaulle commençait ses discours par française-français, c'était déjà du langage inclusif. Je ne pense pas que le général de Gaulle se reconnaisse dans le wokisme, vous voyez ? Donc on n'est pas dans du délire, woke ou je ne sais pas quoi. C'est déjà du langage inclusif. À l'intérieur de ce langage inclusif, il y a l'écriture inclusive, c'est-à-dire des procédés orthographiques qui permettent justement de tenir compte de la mixité, de la diversité des genres. Et là, il y a plein de dispositifs qui existent depuis très longtemps et dont certains ont été balayés sous le tapis, notamment par l'Académie, mais ça remonte au 18e ou au 19e siècle. Par exemple, l'accord de proximité. Dire « les écoliers et les écolières sont sortis IES », c'est de l'accord de proximité. La règle qu'on enseigne aux écoliers, c'est à nos élèves, c'est de dire « les écoliers et les écolières sont sortis IS », au masculin, parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Mais en fait, cette règle, elle n'a pas toujours existé. Donc on peut réinjecter la règle de l'accord de proximité. On accorde l'adjectif ou le participe passé avec le nom qui est le plus proche. C'est de l'écriture inclusive déjà. Et en réalité, ce qui focalise l'attention, c'est le point médian. Et le point médian, c'est une toute petite partie de l'écriture inclusive. Et c'est quelque chose qui est tout à fait expérimental. Contrairement à ce qu'on peut entendre, personne n'impose l'usage du point médian. C'est une simple abréviation, d'une part. Donc on a quelquefois des critiques qu'on peut voir dans la presse ou dans les médias disant « Ah, mais c'est imprononçable ». C'est pas fait pour être prononcé tel quel, c'est une abréviation. C'est comme si quelqu'un qui voit MME essayait de prononcer me au lieu de dire madame. C'est exactement la même chose. Donc si j'écris les étudiants point médian e point médian s, c'est fait pour être prononcé les étudiants et les étudiantes. C'est une simple abréviation. Et c'est expérimental, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore vraiment si c'est efficace, et on n'a pas encore vraiment de réponse sur le fait de savoir si ça ralentit la lecture, si ça pose des difficultés, par exemple, aux personnes porteuses de dyslexie, ce qui est un argument qui est souvent repris par les opposants à l'écriture inclusive, c'est-à-dire au point médian. Pour l'instant, on ne le sait pas. Ce sont des expérimentations qui sont en cours. Et c'est tout ce que nous disons. Nous, on ne prend pas parti.
Eh ben, merci. On peut renvoyer peut-être les auditeurs et les auditrices donc, à ce tract hein, publié l'année dernière chez Gallimard. Le français va très bien, merci. Et puis donc, un site internet qui reprend hein, les arguments.
Alors voilà, on n'y trouve pas le texte intégral hein, du tract, bien entendu, mais on y trouve des résumés des 10 points. On y trouve aussi un blog qui est mis à jour régulièrement. Et quelques revues de presse, quelques revues médiatiques de nos diverses interventions.
Merci.
Merci à vous.
On était avec Florent Moncomble, membre du collectif Les Linguistes Atterrés, maître de conférence en linguistique anglaise à l'Université d'Artois. Le texte « Le français va très bien, merci » est paru aux éditions Tract Gallimard. Retrouvez les idées qui y sont développées sur le site internet tract-linguiste.org.